Bienvenue sur la chaîne podcast de Ma Petite Forêt, un site d'éducation et de santé en forêt. Je suis Laura Nicolas et je vous souhaite la bienvenue. Nous avons la chance aujourd'hui d'entendre Jean-Marie Defossé, qui est l'un des pionniers de la sylvothérapie et des bains de forêt. Il est également physiologiste, spécialisé dans les techniques de gestion du stress et des inflammations. Amoureux des arbres depuis son enfance, convaincu que ces géants au grand cœur ont beaucoup à nous apporter, il a construit le site sylvothérapie.net bien avant que cette discipline ne soit connue du grand public. À travers l'école buissonnière de sylvothérapie qu'il a fondée, Jean-Marie Defossé donne désormais des conférences sur les bienfaits des arbres et propose une formation certifiée en sylvothérapie. Trois questions santé et éducation à Jean-Marie Defossé, c'est maintenant sur Ma Petite Forêt. Eh bien, bonsoir Jean-Marie, je suis très heureuse de t'accueillir pour cette première interview et sans perdre plus de temps, je vais directement te poser la première des trois questions que j'ai en tête. La première évidemment est celle qui porte sur ta pratique, à savoir la pratique de coach respiration pratiquée en forêt, ta démarche de sylvothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bonjour Laura, et puis bonjour à ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent. Donc, coach respiration est une approche de gestion de stress par un travail sur la respiration et une attention au nerf vague, un nerf qui est anti-inflammatoire et qui est le nerf de l'apprentissage, de la sociabilité aussi dans le corps humain. Il y a une partie coach respiration qui va utiliser, au sens noble du terme, le côté réparateur, le côté générateur de bien-être qu'offre le contact avec la nature. Et ça crée une branche de la coach respiration qu'on appelle coach respiration en extérieur ou en nature, qui va s'approcher par exemple lors de pratiques en forêt de quelque chose qu'on pourrait inclure dans une approche de sylvothérapie, donc l'utilisation du milieu forestier pour du bien-être. Donc ça consiste principalement des activités respiratoires, ensuite d'immersion émotionnelle, immersion sensorielle à l'intérieur des milieux forestiers. Et ces milieux forestiers, et ce n'est pas une anecdote, c'est vraiment une chose qui est démontrée par les neurosciences, les milieux forestiers, les milieux naturels spontanés, sont des endroits où le cerveau humain se met spontanément dans des niveaux de stress qui sont plus bas que dans les milieux modernes, urbains, etc. Et donc on va profiter à la fois de pratiques respiratoires qui sont génératrices de baisse de stress, génératrices de mieux-être, et de l'environnement naturel, forestier, qui lui aussi travaille dans le même sens. On crée une synergie comme ça. Quand les niveaux de stress s'abaissent, eh bien on augmente la connexion à soi-même, mais aussi, et c'est aussi une merveille, la connexion aux autres, la connexion à la nature. Et vous obtenez un lieu qui devient particulièrement propice pour être connecté à ses sensations, à rouvrir la pleine puissance des sens, l'accueil des sensations et, bien sûr, de fil en aiguille, l'accueil des émotions qui peuvent être liées aux sensations elles-mêmes, les cinq sens, et les émotions qui viennent du fait de se sentir, et ça c'est un autre sens que nous avons, se sentir vivant. Dans la nature, se réveille notre nature, une nature qui est sensible. Cette sensibilité à la nature nous rend sensible à la nature. C'est une sensibilité qui nous définit comme être vivant. On n'est pas sensible parce qu'on a un défaut, on est sensible parce qu'on est vivant. C'est la définition du vivant. Et vivant, ce qui est sensible. Ce qui n'est pas sensible, ne peut pas s'adapter, n'est pas vivant. Sensibilité à notre nature sensible à la nature qui, elle aussi, est sensible. Et ça crée une synergie qui est une synergie d'amélioration des conditions vraiment physiologiques, physique, chimie, biologie, mais aussi de vie psychique, où vous avez le mental qui s'ouvre à ce qui est nouveau, qui se rouvre vers des capacités d'apprentissage. Et ça donne vraiment une synergie qui est très très intéressante. Et il y a quelque chose qui se forme, qui est le fait qu'on touche à l'unité des choses. On ne cherche pas à couper le corps, l'esprit, moi, la nature. En fait, vous entrez dans une immersion en vous et à l'intérieur de ce qui est comme vous, c'est-à-dire de la nature sensible.
Et partant de cette très riche approche qui est la tienne, celle que tu as développée, quels seraient donc les conseils que tu donnerais à, j'allais dire, un sylvothérapeute ou même un amateur des bains de forêt qui débute? Quels seraient les conseils que tu pourrais nous donner, lui donner?
Alors, la forêt peut travailler par elle-même. Le simple fait d'entrer en milieu forestier, pour autant que vous lui accordiez de l'attention, si c'est pour y aller avec votre téléphone portable, le MP3 dans les oreilles, etc., ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous accordez de l'attention au milieu forestier, il faut savoir que les arbres vont déjà faire énormément de travail par eux-mêmes. C'est une réalité. Maintenant, on peut aider ce travail en allant dans le même sens. Et ce même sens, ça va être, ça rejoint ce qu'on a dit un peu, ça fait l'écho, de restaurer la sensibilité. Imaginez qu'au lieu d'être déjà réceptif à la forêt, on devienne hyper réceptif à la forêt. Pour augmenter le niveau de sensibilité profonde, il faut aller dans le sens de stimulation du nerf vague, et c'est tout ce qui est doux, c'est tout ce qui est apaisant. Et nous possédons tous en nous un outil qui est particulièrement apaisant, qui est l'outil du contrôle respiratoire. Donc, les conseils seraient d'adoucir cette respiration, et en geste de respiration, le mouvement le plus doux, l'état le plus doux, c'est des expirations qui ont été approfondies, qui amènent à des poumons qui sont plus vidés. Et vivre avec des poumons qui sont plutôt vidés que des poumons qui sont toujours remplis, pleins, thorax gonflé par le stress. Donc si vous entrez en forêt, ralentissez le temps pour regarder autour de vous et pendant ce processus, expirez une fois, attendez un petit peu, expirez une deuxième fois et laissez une lenteur vous imprégner. Vous ne ralentirez pas le temps physique, mais vous ralentirez un temps qui est le temps biologique et qui est un grand ami de la douceur. Donc voilà mon conseil. Ralentir le souffle, ce n'est pas vraiment une question de le ralentir dans le temps, c'est ralentir le temps lui-même et laisser votre expiration devenir profonde. Et ensuite, respirer dans cet endroit où l'expiration était profonde.
Troisième question va au monde de l'éducation. Bien sûr, tu l'as mentionné tout à l'heure, brièvement, la question de l'apprentissage. Je te poserai la question suivante. Quel lien vois-tu entre ce travail sur la respiration en forêt et le travail des éducateurs, l'éducation des enfants, le développement des enfants? Quel lien pourrais-tu faire entre ces deux aspects-là de la vie, finalement?
On peut même en mettre trois. On pourrait dire qu'il y a respiration, qu'il y a le fait d'aller en forêt, de mettre la forêt, d'inviter la nature, soit la retrouver parce qu'on y va, soit l'inviter dans nos bâtiments modernes, parce que c'est aussi une option qui est possible, dans nos bâtiments ou autour de nos bâtiments, végétaliser une façade, replanter des arbres dans une cour d'établissement scolaire, ce n'est pas du tout farfelu ni accessoire, et c'est l'éducation. Or, ce qui peut être dit, c'est que par la respiration, il est possible d'améliorer, d'optimaliser une partie de l'action du nerf vague, que la présence, l'immersion en milieu naturel optimalise également une partie de l'action du nerf vague, et que ce nerf vague détermine, et le levier qui détermine notamment nos capacités de vivre ensemble et d'apprentissage, nos capacités d'ouverture, nos capacités à construire des liens sociaux, c'est à peu près le vivre ensemble. Notamment, c'est aussi le levier de l'anti-inflammation. Quand vous êtes enflammé, vous êtes pour le combat, vous êtes contre les choses, vous disputez, vous n'êtes pas pour le compromis. Quand vous vous apaisez, et la respiration et la forêt ont cet effet apaisant, qui est démontré par des études de neurosciences, vous facilitez les pensées paisibles, vous facilitez la capacité du corps de s'adapter à tous. À tout point de vue, que ce soit d'un point de vue immunitaire, que ce soit d'un point de vue résistance des maladies, que ce soit d'un point de vue apprentissage. C'est du non-sens, aujourd'hui, avec ce concept, de maintenir des enfants dans des bâtiments où il n'y a pas un brin de nature et où ils vont devoir rester assis des heures et des heures par jour alors qu'ils n'ont même pas 10 ans. Ça n'a pas de sens. Le corps humain ne se sent pas bien dans ces situations. Le corps humain est fait pour bouger. Le corps humain est fait pour vivre entouré de choses naturelles. Qu'est-ce qui se passe concrètement? nous avons en nous une partie instinctive. On ne l'aime peut-être pas parce que ça fait préhistorique, ça fait singe poilu, ça fait descendant dans des singes qui étaient dans les arbres. Mais elle est notre héritage et notre base fonctionnelle. Cet instinct, on ne perçoit pas sa voix, mais notre corps est lié directement à lui. Quand aujourd'hui, l'homme moderne est dans une pièce avec des murs blancs, du carrelage, sans végétation, cet instinct nous dit, écoute, ici, tu n'auras ni à boire, ni à cueillir, ni à manger, ni à chasser. Tu vas mourir de faim et de soif. Va-t'en de là. Mmh. On n'entend pas, mais notre cerveau le sent. Et la preuve de ça, c'est que si à cet humain, vous faites des mesures d'activité cérébrale, et qu'ensuite vous projetez simplement des images de nature à ce même humain, vous observez que son activité cérébrale va être modifiée dans un sens d'apaisement de stress. Il y a donc que le simple fait de voir de la nature, même en image artificielle, à l'intérieur d'un bâtiment, met le corps humain dans un état de stress abaissé. Les enfants stressés ne sont pas en capacité maximale d'apprendre puisque leur nerf vague est affaibli au niveau de son activité. Si on veut optimaliser les capacités d'apprentissage d'un enfant, il faut le mettre dans des conditions optimales de non-stress. Et la nature est un milieu qui est résilient et qui est réparateur parce que notre cerveau aime les milieux naturels. Notre système nerveux inconscient, lorsqu'il est exposé à des milieux naturels diversifiés, et la forêt est un exemple royal, ce système nerveux autonome envoie des signaux apaisants au système entier du corps. Ça nous échappe, ça échappe à notre conscience, mais ça n'échappe ni à notre manière de respirer, ni à notre manière de fonctionner. Les conséquences de ça, par exemple de la forêt au niveau du cerveau, il est démontré par exemple que si vous faites passer des tests à des enfants en dans une salle classique ou en forêt, les mêmes enfants vont avoir de meilleurs résultats en forêt. Donc il y a une démonstration dans des journaux de sciences internationaux tout à fait indiscutable du fait que la forêt change, améliore le fonctionnement de notre cerveau. D'autre part, ça, il est également démontré que la présence de nature dans l'environnement proche de l'enfant va améliorer l'architecture du cerveau au cours de sa croissance. Partant de là, on peut se dire quand même, aujourd'hui il est vrai que les enseignants rencontrent de plus en plus de difficultés à ce que les enfants suivent facilement à l'intérieur des classes. Il y a des endroits où les classes sont des lieux de grande tension. Certains enfants sont hautement perturbés, ils n'y peuvent rien. Il faut savoir qu'on les expose quand même dans des environnements qui sont complexes. Ils sont déjà perturbés et les environnements classiques, urbains, les salles de classe ne sont pas optimales pour eux. Le transfert dans des milieux qui sont soit la nature ou faire rentrer la nature à l'intérieur des bâtiments, et je pense là par exemple aux murs végétalisés, qui peuvent être une option, parce que toutes les classes de la Terre ne vont pas finir en forêt, ça peut être vraiment une option. Ce n'est pas accessoire, ça peut être une aide considérable pour les enfants.
Ok. Merci beaucoup Jean-Marie pour l'exposition de tes points de vue qui vont servir, je pense, à beaucoup de monde. Merci beaucoup à toi d'avoir pris ce temps-là.
Je t'en prie. Au revoir Laura. À bientôt.